Vous êtes sur RTL.
Merci Guillemette Franquet, prochain point d'info tout à l'heure à midi sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour à tous, bonne fin de semaine et merci d'être avec nous. RTL vous régale jusqu'à midi et demi, tous les jours sur les routes de France. C'est un peu notre tour de France à nous, en plein mois d'août. Cette longue balade d'une heure et demie pour découvrir, voire redécouvrir ce qui fait les merveilles de la France. Les spécialités de terroir, le patrimoine, les producteurs, les artisans, les restaurateurs, tout le monde est là. Et mes camarades aussi. Comment ça va, Louise?
Très bien, et vous?
Eh ben, pas mal, on est ravis de recevoir Jean-Sébastien Petit-Demange comme tous les jours.
Bonjour, vous êtes trouvez que c'est long d'être avec nous?
Pourquoi
ça serait long,
ce long voyage?
Bah, c'est un long voyage qui a commencé au début du mois de juillet.
Bah oui, c'est pas long.
Je ne vois pas le temps passer avec vous.
Moi non plus. Moi, je trouve même que ça va beaucoup trop vite.
Vous n'êtes pas tout à fait le régional de l'étape, mais c'est pas loin de votre terre d'origine.
C'est pas loin.
On est dans le Haut-Jura aujourd'hui, direction Saint-Claude. Alors, puisque vous êtes à peu près le régional de l'étape, je vous engage à nous faire rêver sur ce département du Jura qui doit son nom
à la chaîne de montagnes.
Forcément.
Qui forment sept chaînons calcaires, sorte de degrés qui montent jusqu'à la frontière avec la Suisse. Calcaire qui est à l'origine du nom du département, hein, il y en a suffisamment peu. Le Jura a donné le Jurassique, ou l'inverse. En attendant, Alexandre Brognard, c'est lui qui a inventé le mot Jurassique qui s'applique à ces terrains à dominante calcaire formés il y a presque... 200 millions d'années, ils sont omniprésents dans ce coin de la planète. Ils ont créé quelques paysages absolument fascinants. Il y a une autre richesse dans le Jura, c'est le bois. Des forêts d'épicéas qui sont innombrables. C'est un poumon vert incroyable. Grâce à une immense forêt où il fait bon randonner, où il faut faire encore attention à ne pas se perdre, parce qu'on peut se perdre dans les forêts jurassiennes. Nous allons nous balader au cœur du parc naturel du Haut-Jura, un parc créé en 86, 164 000 hectares et 113 communes, une terre rude, peuplée de gens chaleureux, où la montagne est vraiment restée vivante. Le Haut-Jura, ça exerce une fascination immédiate avec ses crêtes rocheuses, ses vertigineux pics, ses vallonnements douillés, ses profondes tourbières qui s'emboîtent pour former un univers de plein air où on respire à plein poumon.
Et sans masque. Et ça fait du bien.
Et c'est un vrai bonheur de passer des vacances également remplies de saveurs.
C'est un vrai bonheur également d'écouter notre belle Deschamps d'RTL vous régale depuis le début de cet été évoquer cette passion qui est la sienne pour les fromages de France.
C'est vrai. Mais oui, mais si on parle du Haut-Jura, on doit parler évidemment du comté, qui est un fromage au lait cru de vache.
Comté.
À pâte pressée cuite. Donc, comme vient de le dire Jean-Seb, son terroir est le massif du Jura, une région de moyenne montagne qui s'étend sur le Doubs, le Jura et l'Ain et quelques communes de Saône-et-Loire. C'est un fromage qui est issu de vaches montbéliardes et cimentales françaises. Uniquement françaises, ce sont les seules autorisées pour la production du lait pour fabriquer le comté. Chaque jour, le comté est élaboré artisanalement dans environ 140 fromageries de village, aussi appelées fruitières. Vous savez, quand on voit ça dans...
Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que certains comtés sont plus ou moins fruités?
Alors, je ne pense pas.
Ça n'a rien à voir.
Moi, je pense que c'est plus une question de saison.
C'est un heureux hasard, en tout cas.
Ouais, exactement. Ensuite, il faut du temps pour se compter, parce que les bonnes choses se font toujours attendre. Donc, chaque meule de comté doit passer au minimum 4 mois en cave d'affinage. Certaines y séjournent même 12, 18, 24 mois, voire plus. Et alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on en trouve dans plus de 70 pays du monde. Vous avez Bruxelles, Londres, New York, Berlin ou encore Tokyo. C'est-à-dire que notre comté est connu dans le monde entier et l'info importante, eh bien, c'est que ce sont les Belges qui sont les premiers importateurs de comté dans le monde, suivis des Allemands puis des Américains.
Ah bon,
vous êtes belge, je vous rappelle.
C'est dingue ça. Mais justement, c'est pour ça que je suis surpris.
Il y a du comté chez vous.
Ah, mais bien sûr qu'on a du comté, de là à être les premiers importateurs dans le monde.
Eh bien oui. Et en revanche, le comté reste français et on en est très fiers.
Évidemment. Jean-Sébastien, puisqu'on parle de comté, on peut parler du Fort des Rousses.
Ah, c'est là où on trouve la plus belle collection de comté qui soit au monde. Le Fort des Rousses, c'est un ancien bâtiment militaire qui est devenu la cave d'affinage des meilleurs comtés de la région. C'est la cave d'affinage de Juraflore. On y entrepose aujourd'hui 45 000 meules de comté. Ça fait 2000 tonnes de fromage. Mmh. En visitant l'endroit, vous allez tout savoir sur la production en découvrant ce couloir.
Moi, c'est sublime.
Ça me fascine. Vous avez un couloir d'affinage de 200 mètres. de long dans lequel tous les jours on frotte au sel à la saumure 6000 meules qui sont alignées comme ça. C'est impressionnant. Je peux vous dire qu'on vous ressortez, vous avez des bras, ça comme.
Les couloirs du temps, en fait, c'est ça.
C'est magnifique.
On retourne, on frotte, on retourne la meule. C'est pas léger, une meule de comté, si vous voulez.
Il n'y aura pas que du comté dans cette émission. Il y aura des tas de choses, vous allez voir. On va se régaler forcément jusqu'à midi et demi. Et je vous annonce Toto. On parlera de terroir, on parlera forcément aussi de Francis Cabrel.
L'aube revenant, les amants se relèvent.
Dans la playlist d'RTL vous régale ce matin Charles Aznavour aussi.
Formidable.
Ajoutez-y Louane. Vous régale, c'est jusqu'à midi et demi. On vous souhaite de passer une très bonne fin de matinée avec nous. On va démarrer avec Julien Doré. Waf.
Il paraît que la terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout c'était temps pour toi. Y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de quelqu'un. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Que la nature serait bien mieux sans nos lois. En attendant le futur, cacahuète et pastèque. Oh là là, oh là là. Sers-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là. On a fait le tour de vers l'année de quelqu'un. Oh là là, oh là là. Viens, on s'accoude aux étoiles. Mon cœur a soif de voix lactée. Oh là là. Quelques glaçons, quelques larmes. Les gens font pour oublier. Oh là là. Viens, on s'accoude aux étoiles. De l'amour dans un verre de pastèque. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka.
Waf, c'était Julien Doré sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zecker.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zecker.
Et à mes côtés, Jean-Sébastien Petit de Mange et Louise Petit-Renaud pour vous emmener aujourd'hui dans le Haut-Jura. Vous savez que dans chaque début d'émission, c'est un peu une tradition dans RTL vous régale. On vous met l'eau à la bouche, on évoque les incontournables de cette région. Louise, il y a un incontournable dans cette région-là. Ah et on adore tout ça, parce que c'est un petit peu régressif, que c'est un souvenir d'enfance et c'est tellement bon, c'est la saucisse de Morteau.
Mais oui, c'est une saucisse fumée, elle est élaborée traditionnellement en Franche-Comté depuis plus de 5 siècles, où autrefois elle était nommée Belle de Morteau. Je trouve ça joli, moi, Belle de Morteau.
Tellement.
Et si on se faisait une petite balle de Morteau.
Ouais, mais je voudrais vous y voir si on vous appelait comme ça, quand même.
Oh, ben ça ne me dérangerait pas.
Tiens donc. Comment reconnaît-on une vraie saucisse de Morteau?
Alors, c'est une très, très bonne question.
Par exemple, c'est pas écrit dessus.
Non, alors justement, par exemple, comment on la reconnaît d'une Montbéliarde?
Par exemple.
Qui est sa sœur, sa cousine. Et bien, grâce à sa petite cheville en bois. La saucisse de Morteau est attachée à l'extrémité qu'une ficelle et une petite cheville de bois.
Et là, on est sûr que c'est de la Morteau.
Et là, ça veut dire que c'est de la Morteau.
Très bien.
Et puis la Montbéliard est plus petite. de toute manière que la morto. C'est ce qui fait la différence également. Globalement, il n'y a pas de grande différence en termes de produits à l'origine. La Montbéliarde est aussi fumée, mais elle n'est fumée que 24 à 48 heures, alors que, comme l'a dit Louise, la morto, on peut la fumer jusqu'à 7 jours. On la parfume avec du cumin, la saucisse de Montbéliard. Elle est un peu plus ambrée, elle est un peu plus foncée que la saucisse de morto. C'est idéal, la Montbéliard. Autant la morto, ça se mange, ça peut se manger tout seul. C'est la Montbéliard, il faut la mettre dans une soupe, c'est extraordinaire, dans une potée. Il faut savoir que anciennement, c'était un moyen de conservation, hein, les salaisons, quand le froid n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on a une immense tradition de charcuterie en France et de ces saucisses qui rappellent les époques passées. Et tout ça, on se les transmet de génération en génération, et c'est formidable.
Je trouvais ça très étonnant. Parce qu'on a évoqué le comté, etc. Je trouvais ça très étonnant que vous ne nous ayez pas encore parlé de la cancoyote.
Oh bah parce que
vous attendiez votre heure.
Oui, c'est ça. Moi, j'attends qu'on me donne la parole. La cancoyote, c'est un fromage à pâte fondue qui est fabriqué principalement aussi en Franche-Comté. Elle est obtenue à partir d'un mélange de méton. Le méton, c'est du lait écrémé qui est caillé et d'eau. Et puis, c'est additionné de beurre. Mais ça, c'est à la fin de la préparation. C'est vraiment un fromage typique de la cuisine franc-comtoise. Alors, le nom, attesté depuis la fin du 19e siècle, provient de la coye, qui est un dérivé franc-comtois du verbe caillé. Donc, ce qui désigne le lait écrémé obtenu après extraction de la crème, ce qui fait un fromage, du coup, la cancoyote, très pauvre en matière grasse.
D'accord.
Alors, il est commercialisé sous différentes formes. Vous pouvez en trouver partout en France. Hein. Pot en plastique, boîte de conserve. Il suffit simplement de le faire légèrement chauffer pour qu'on puisse après le tartiner sur du bon pain. Mais vous pouvez aussi la cuisiner, la cancoyote. Elle peut être gratinée, nappée sur des pommes de terre, des légumes. Et comme je vous l'ai dit, c'est un des fromages les moins caloriques. Donc, si vous voulez faire un petit régime et continuer à manger du fromage, eh bien, misez sur la cancoyote.
C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est depuis qu'on a sorti ce caractère de la cancoyote, que c'est un fromage, c'est le fromage le moins gras du marché. Du coup, on en trouve partout.
C'est RTL, vous régale, et c'est comme ça tous les jours entre 11h et 12h30. Je rappelle que dans un instant, évidemment, on va continuer ce petit tour dans le Haut-Jura qui nous emmène ce matin à bord d'un train d'ici quelques instants. Mais... vous savez qu'on adore ça. C'est le petit train de l'Ardèche qui vous a remis en mémoire vos souvenirs de,
ah oui,
vos souvenirs de voiture, de train, c'est ça.
Nous allons partir sur la ligne des hirondelles.
Et vous savez, Dieu sait si une hirondelle ne fait pas forcément l'été. Hein.
Ah, elle est belle.
Toto, Africa-RTL. Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. Twelve-thirty flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there. Restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. We'll be right back. 1983, Toto Africa sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous magasin.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Jean-Sébastien Petit-Demange, Louise Petit-Renaud avec nous jusqu'à midi et demi. On va prendre le train, les amis. Jean-Sébastien, je ne vous ai jamais appelé Simone et pourtant, en voiture.
Ce qui n'a rien à voir avec le train.
Bien sûr.
Non, c'est... Il y a quelques semaines, on a évoqué le train de l'Ardèche. Et ça m'a remis en mémoire cette ligne des Hirondelles, qui est un des plus beaux parcours ferroviaires de France. 123 kilomètres mythiques qui séparent Dole de Saint-Claude. C'est un voyage qui commence par la traversée de la forêt de Chaux, la deuxième plus grande forêt de feuillus de France. C'est également une forêt de légende dans laquelle est censée vivre la vouivre. Et plus on avance, on va découvrir la Saline Royale d'Arquesnans, qui est un peu la première, on va dire, attraction touristique, enfin la première merveille qu'on trouve sur ce parcours. Une usine née de la volonté de Louis XV, exemple unique d'architecture industrielle du XVIIIe, qui devait permettre une organisation rationnelle du travail. Arquesnans est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et ensuite, quand on continue le parcours, on arrive aux abords d'Arbois, petite cité de caractère qui affiche dans de belles maisons l'opulence qu'elle doit à la vigne. Et même en ne passant que furtivement, le charme opère très vite. Un charme qui est empreint d'histoire, qui est empreint de ses paysages de vignobles. Ça contraste énormément avec la rudesse du plateau du Grand Vaux, qui est absolument saisissante. L'été, c'est déjà fascinant. Je vous raconte pas l'hiver, lorsque tout est recouvert de neige, la balade devient totalement irréelle. Et puis le train aborde la portion la plus emblématique, celle qui relie Morbier à Morée. C'est là qu'on peut voir l'exploit technique que représente cette ligne des Hirondelles. Une quarantaine de tunnels, une vingtaine de viaducs qui s'enchaînent sur 123 kilomètres. Entre Morbier et Morée, on aborde là des difficultés avec des dénivelés de 125 mètres. Pour absorber ce dénivelé sur une distance de 1500 mètres, il a fallu tracer 5 kilomètres de voie à flanc de montagne, percer 1180 mètres de tunnels, dont un tunnel hélicoïdal, celui des Frasses. Tunnel de 1 km en fer à cheval qui fait un lacet et qui permet de reprendre la grimpette. C'est absolument hallucinant. Les financements étaient fous. On est dans les années 1850-1860. Ils étaient une poignée pour commencer des travaux qui étaient titanesques. La construction a pris plus d'un demi-siècle, a coûté des sommes folles pour faire de ce voyage quelque chose de totalement inoubliable. Et c'est un véritable exploit qu'on peut encore emprunter. Et Dieu merci, cette ligne existe toujours pour le plus grand bonheur de ceux qui l'empruntent.
Ça a l'air magnifique.
Moi, j'adore les trains. Je trouve que ça transporte l'imaginaire. Ah bah ouais. C'est truffé de souvenirs. Il y a cette excellente émission.
Passion Philippe Googler. Hein.
Mais je sais, les trains du bout du monde, etc. Je trouve ça absolument génial.
Des trains pas comme les autres.
Des trains pas comme les autres aussi. Je voudrais vous parler d'un menu régional.
Oui.
Il y a un endroit là-bas, dans ce Haut-Jura, où un restaurateur a eu l'idée d'intituler son menu régional à base de produits du Jura, si le Jura m'était compté.
Ah, j'adore.
Et c'est une vanne qu'on doit à un certain Philippe Bouvard.
Bienvenue dans RTL, vous régale.
Bienvenue à Philippe Bouvard.
Et bienvenue à Philippe Bouvard, mais...
Bonjour.
C'est pas une blague en plus. Hein.
Bonjour.
Mais non, c'est juste énorme.
Non mais moi quand on m'a dit,
vous savez que c'est l'adresse du guide du routard qui me fait le plus rire depuis des années.
Bah, j'imagine. Non mais donc il faut authentifier les faits,
oui,
quand même. Vous vous appelez, c'est rigoureusement exact, Philippe Bouvard, chef.
Tout à fait.
Voilà.
À fait.
Ça a pas dû être facile tous les jours quand même d'imposer ça.
Si, c'est très très facile parce que Monsieur Bouvard est justement un homme. Très très respecté, très aimé.
Ah oui, ça bien sûr,
très,
mais
très facile.
Ah, c'est pas dans cette maison qu'on va vous dire le contraire. mais simplement sans jouer les imposteurs, c'était ça le problème. Parce qu'en plus,
ah
quand...
non, oui.
Oh. Non mais le problème, c'est quand les clients découvraient que le maître d'hôtel du restaurant s'appelle Jean-Pierre Foucault. C'est ça le problème. C'est là que ça commençait à se compliquer. Bon chef, sérieusement, à la carte en ce moment, il y a quoi chez vous? Parce que dans ce menu régional, on trouve les produits de la région, forcément. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on mange ce midi?
Oui, on trouve les produits de la région, ceux que j'ai cités antérieurement. Le soufflet, évidemment, soufflet au comté.
Oh là là.
Et morille. On trouvera aussi le feuilleté de cervelle de veau.
Ça, c'est une spécialité.
Oui, ça, c'est un petit peu une spécialité. J'adore travailler les abats et notamment tout ce qui est issu du veau. C'est une spécialité que je mitonne donc dans un court bouillon au savagnin. Et je le sers sur un feuilleté alors qui est en forme de cœur. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la région de Saint-Amour. Là, vous êtes dans la région de Saint-Amour.
Forcément.
Le vrai Saint-Amour, je tiens à le signaler, puisque il y a eu débat il n'y a pas si longtemps que ça avec le Saint-Amour dans le Beaujolais.
Ouais.
Et je le sers avec un petit feuilleté en forme de cœur.
Donc si on le mange, on tombe amoureux.
Ah bah tout à fait.
Dans cette émission, on a une passion, je ne suis pas le seul à être passionné par ça ici, mais j'ai une passion pour les soufflets, vous parliez des soufflets au comté,
c'est,
etc.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Oui, je fais un soufflet un petit peu atypique. Alors je fais un soufflet mais sans coque, c'est-à-dire qu'il n'est pas servi dans un moule à souffler.
Et comment il monte alors ? Vous faites quoi ? Enfin, il monte dans un moule, j'imagine, mais vous le sortez pour le servir.
Oui,
techniquement,
oui.
C'est une performance, ça, sans qu'il retombe.
Oui, un petit peu.
Et quel est le secret ?
C'est assez facile, je l'ai découvert, si vous voulez, aux alentours d'une expérience que j'ai faite seul. Je voulais absolument servir ce soufflet, mais sans que le client ait à creuser avec une cuillère dans ce bol réceptacle.
Alors comment on fait justement pour servir un soufflet en dehors de son moule sans qu'il retombe ?
Voilà, donc je le trouve très simple, mais il y a une modification aussi au niveau de la recette. Hein. Il y aura beaucoup plus de fromage, beaucoup plus de comté dans la recette.
Et c'est ce qui fait que ça va tenir tout seul ?
Oui, ça permet à faire croûter, ça, si vous voulez, le bord du soufflet. Et en fait, il va croûter, il va gonfler. Et l'intérieur va être moelleux, comme on a l'habitude de manger un soufflet au fromage. Voilà,
oui, donc avec c'est un comté au soufflet.
Un petit peu.
Merci, chef. Merci d'être passé dans RTL. Vous régale.
C'est nous qui vous remercions.
Merci, Philippe Bouvard.
Évidemment, non,
merci
mais
beaucoup.
Vous utilisez de l'ail quand même dans votre cuisine.
Énormément.
Mais on raconte que vous n'utilisez que les plus grosses têtes. Merci beaucoup et bel été à vous. À très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Jusqu'au bout. Allez.
Tout de suite, retour de RTL.
Plus d'alcool.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Elle est prête, elle est en place et prête à relever tous les défis, ce qu'elle fait d'ailleurs haut la main depuis le début de l'été. Voici les challenges de Louise Petit-Renaud. Muriel est à Caen, Louise.
Oui.
Et elle adore faire des tartes aux fruits, surtout l'été. Mais alors, elle a un problème, c'est que ses fruits rendent trop d'eau sur les pâtes de ses tartes.
Ouais.
Est-ce que vous avez une solution pour elle ?
C'est souvent le cas avec les fruits d'été. Alors Muriel, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez parsemer votre pâte à tarte de tapioca. Vous savez, cette fécule de manioc. Comme ça, elle va rester croustillante et c'est à ce tapioca va absorber l'eau de vos fruits.
C'est ce que Jean-Sébastien fait régulièrement quand il fait sa quiche au melon, d'ailleurs.
Je voudrais surtout rendre hommage à quelqu'un qu'on connaît bien dans cette maison, c'est Jean-Louis Gaget. Jean-Louis Gaget m'a fait une tarte aux abricots un jour et c'était son angoisse, c'est que les abricots rendent de l'eau et il a lu à un moment qu'il fallait mettre de la semoule au fond. Le seul problème c'est qu'il n'avait pas fait cuire avant la semoule.
La semoule, non.
Et donc on a mangé une tarte aux abricots au sable, c'était absolument imbouffable.
On salue Jean-Louis.
Jean-Louis. Désolé de t'avoir balancé le truc là.
Patrice est à Basse-Goulaine en Loire-Atlantique. Il se demande comment garder des crêpes toujours tièdes pour les invités d'un dîner. C'est vrai que c'est toujours un souci.
Prévenant, Patrice.
Ouais.
C'est gentil.
Sans qu'elles recuisent dans un four ou...
Alors, il faut faire pour ça bouillir une casserole d'eau et que vous allez recouvrir avec une assiette et vous allez déposer vos crêpes une après une, couvrir d'une cloche, comme ça la vapeur d'eau va les réchauffer en les réhydratant, donc elles ne seront pas desséchées.
Ah, très bien.
Voilà.
Quelle astuce.
Ouais, c'est pas mal.
Charlène à Grenoble se demande comment obtenir un pain d'épices bien moelleux.
Ah bah c'est marrant, c'est un peu le même... Même genre de réponse que pour Patrice. Donc pour que vous ayez un pain d'épices moelleux, parce que c'est vrai que c'est bon ça, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors vous allez le cuire dans votre four et à côté vous allez mettre un bol d'eau. Une fois que votre pain d'épices est sorti du four, vous mettez des gants pour pas vous brûler et vous allez emballer votre pain d'épices avec du film plastique pour que l'eau ne s'évapore pas et qu'il reste bien moelleux. Ça sert à réhydrater justement tous les gâteaux un peu secs.
Tous les biscuits, généralement
ouais,
ça fonctionne très bien. Louise répond chaque jour à vos questions questions, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'un petit tour de passe-passe, c'est la magicienne d'RTL vous régale. N'hésitez pas pour lui lancer des challenges, vous envoyez par SMS le mot régale, suivi de votre message au 64 900. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale et le propriétaire du domaine Jean Bourdi, nous allons à Arlay.
À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmures brûlants. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde, là les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent. Une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige et faire semblant. Se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve, le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus, un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants.
À l'aube revenant, c'était Francis Cabrel dans RTL vous régale.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, on va filer dans le Jura pour vous emmener dans ce qui est un des plus anciens domaines du Jura. On parle de quand même 500 ans. Il est situé à Arlay, au cœur de ce vignoble du Jura où nous attend Jean-François Bourdi. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Jean-François.
Et bienvenue à vous Jean-François Bourdi, propriétaire bonjour. Du domaine Bourdi à Arlay. Je ne me suis pas trompé, c'est un des plus anciens domaines du Jura, hein.
Oh, pardonnez-moi, c'est le plus ancien. Voilà. 15 générations, depuis 1475 et maintenant une 16e avec ma fille aînée.
Ah, carrément. Mmh, ouais. Alors, on donne quelques chiffres rapidement, mais oui. 11 hectares de vignobles, oui. On fait du vin à Arlay, oui. Depuis 2000 ans.
Eh bien, écoutez, l'édit de César en 52 avant Jésus-Christ, qui interdisait la plantation de vignes en Sicuani, c'est-à-dire notre belle Franche-Comté, s'adressait en partie à Arlay. C'était tout simplement pour garder des terres, pour planter du blé, pour nourrir les légions romaines. Donc, vous voyez que...
Ça remonte pas à hier, 50 ans. Bien sûr. Dites-nous, Jean-François Bourdy, la spécificité de ce vin jaune du Jura, justement, quelle est-elle ? Est-ce que d'abord, on ne produit du vin jaune que dans le Jura ?
Alors, on ne peut produire du vin jaune que dans le Jura. Tous les vignerons du monde entier qui ont essayé ce processus ont toujours échoué.
Mais expliquez-nous pourquoi exactement.
Eh bien, en fait, si vous voulez, vin jaune, c'est un vin sec, c'est-à-dire sans sucre, comme un vin blanc. On dit vin jaune parce que quand il a 50, 100 ans ou 300 ans, comme chez nous, il a une couleur dorée magnifique. Mais après les vinifications, nous sommes obligés, par décret, de le garder entre 6 ans et demi et 7 ans minimum en tonneau, sans avoir le droit de houiller, c'est-à-dire on ne remplit pas, c'est-à-dire que le niveau baisse à cause de l'évaporation dans les tonneaux, et comme par magie, de façon très naturelle, depuis 900 ans, excusez-moi du peu, ce qu'on appelle un voile de levure, une fine pellicule de levure se développe dans le tonneau à la surface du vin, qui va d'une part, pendant ces très longues années, protéger contre l'oxydation, et par réaction chimique naturelle, donner ces fameux goûts de jaune uniques au monde.
J'entends bien, mais ça n'explique pas pourquoi, quand ils ont essayé d'en faire du vin jaune ailleurs dans le monde, ils se sont plantés.
Mais si, je vous l'explique.
Ben oui, pourquoi ?
C'est tout simplement que ces levures qui se sont développées de façon naturelle il y a 900 ans, dans le Jura, puisque le plus vieux vin jaune, c'est le vin jaune, le grand cru Château-Chalon, donc avec les abeilles de l'abbaye de Château-Chalon il y a 900 ans, eh bien ces levures se sont acclimatées dans le microclimat, même pas du Jura, mais du vignoble juratien, et dès que vous les exportez, elles meurent.
Ah, mais voilà ce qu'on n'avait pas dit.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle un vin de voile.
Alors, c'est ce qu'on appelle un vin de voile. Il y a 3 vins de voile dans le monde. Vous en avez un à Rérès, effectivement, mais avec des méthodes sensiblement différentes et un résultat très différent. Vous aviez autrefois, ça ne se fait presque plus, les Tokaj en Hongrie, mais les secs, hein, pas les Poutounios, 4 ou 5 Poutounios, et ce fameux vin du Jura, mais qui, puisqu'il est gardé 6 à 10 ans, vous voyez, au domaine, chez nous, c'est 9 ans minimum, vous donne une complexité qui en fait l'un des 3 ou 4 plus grands vins du monde, et certainement de plus en plus, selon les sommeliers, les journalistes, etc., le plus grand vin blanc sec du monde.
C'est ce qui est absolument... on est exactement dans le même... vraiment dans la définition même du terroir, des conditions de terroir qui donnent un produit d'exception. C'est ce qui s'est passé à Roquefort, dans les caves de Roquefort, où le Penicillium Roquefort qui a donné ce fromage spécifique. Là, vous avez cette manière, ces bactéries qui se développent, c'est absolument fabuleux. Et puis, c'est aussi un des vins qui est les meilleurs, qui n'est pas forcément le plus accessible. Moi, je trouve qu'il faut être éduqué. Il faut justement que des gens comme vous, Jean-François, vous prennent par la main, vous expliquent ce vin qui est difficile à faire, ce vin qui vient de loin.
Et c'est pas un vin qui est fait pour plaire, en fait, c'est ça le truc.
C'est pas un vin séducteur. C'est un vin, vin magnifique, mais il faut y être préparé,
c'est ça.
Alors, effectivement, on est d'une part, comme vous le disiez par rapport au Roquefort, dans le très haut de gamme et dans l'unique au monde, parce que c'est totalment encore aujourd'hui inconnu, et même l'œnologie chimique n'est pas capable d'aider ou de soigner. C'est-à-dire que depuis 900 ans, tous les ans, dans toutes les caves du Jura, 10 à 40% des tonneaux ne donneront jamais un bon vin jaune.
C'est ça qui est fou. Hein.
Et alors, effectivement, non, c'est pire que ce que vous avez dit. C'est un vin qui, entre guillemets, est inaccessible. Qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, nous n'aimons, dans tous les pays, que le marketing est le standard. Je suis désolé, mais le vin jaune,
vous n'êtes pas là-dedans. Exactement.
C'est l'inverse. C'est pas la lune parce qu'on est sur Terre, mais c'est des choses complètement ahurissantes. Une puissance de parfum.
C'est incroyable.
Même si vous buvez n'importe quel autre premier grand cru derrière, ce sera à peu près de l'eau ou un petit rosé.
Exactement.
Parce qu'il faut savoir qu'un vin jaune, et ça c'est une de ses définitions, en plus de ce nez extraordinaire, cette complexité, un vin jaune reste au minimum 3 à 4 minutes en bouche après dégustation.
Et il peut rester dans les caves jusqu'à 300 ans, c'est vous dire.
Mais c'est surtout ce que...
Eh ben, nous avons des 1781, des vins jaunes de Château Chalon chez nous.
Et c'est là où on touche à la magie de moi, c'est un truc qui me fout, qui me met le frisson à chaque fois. J'ai vécu ça une fois dans un chai de cognac où on m'a fait goûter un cognac dont les raisins avaient été pressés à l'époque de Louis XVI. Et là, c'est le seul aliment historique. On remonte dans l'histoire et c'est le vin et les alcools, les eaux de vie, c'est les seuls aliments sur la planète où on peut remonter des siècles en arrière.
Jean-François, pour clôturer là-dessus, Jean-Sébastien disait un truc en préparant cette émission, c'est lui qui a eu ces mots, je vais le citer, il a dit quelque chose de très joli, qui résume bien l'affaire, il a dit, vous savez, le vin jaune, c'est la Romanée Conti du Jura.
Au minimum.
Voilà. Et encore, minimum, il est en dessous de la réalité.
Et moi, je trouve que effectivement, c'est un vin qui est complexe, mais je trouve que c'est un vin qui est très féminin. Personnellement, j'en suis dingue.
Comme vous, Louis. Complexe et féminin.
Écoutez, nous exportons 90% de notre production. Je pense que nous avons au moins 60-70% d'amoureuses.
Ah ben vous voyez, voilà, j'en fais partie en tout cas.
Beau témoignage.
Et si vous voulez vous plonger dans le vin du Jura, le guide du Routard vient de sortir un guide œnotouristique autour du vin du Jura et de la Bourgogne qui est remarquablement bien fait.
Allez visiter les caves chez Jean-François Bourdy, par exemple, propriétaire du domaine Jean Bourdy à Arlay. Merci d'être venu dans RTL vous régale.
Merci infiniment.
Merci de nous soigner.
Je vous en prie.
Et puis bravo à votre fille.
Merci.
La relève est assurée.
Je lui dis tout de suite.
Bel été à vous, Jean-François. À bientôt.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love. Very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. For me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
The one for me, for me, formidable en 63. Charles Aznavour sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL.com.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Depuis le début de cet été dans RTL Royal, tous les jours nous relevons l'improbable défi de vous emmener sur les plus beaux marchés de France. Et je le dis et je le répéterai jusqu'à la fin de cet été, Dieu que c'est important d'être en famille sur les marchés de plein vent, parce que j'adore cette expression. Jean-Sébastien, on file au marché, mais on n'y va pas n'importe où dans le Jura.
Non, on va aller à Dole.
On va à Dole.
Oui, absolument. C'est Dole qui est la capitale du Jura, qui possède un patrimoine historique assez exceptionnel. Au détour de chaque rue, on croise les traces d'un passé faste. Vous avez des portails blasonnés, des portes sculptées, des cours intérieurs magnifiques. Les marchés couverts et les halles
marque cette espèce d'époque du 19e où tout change, où les villes deviennent importantes. Et donc, au 19e, vous avez des nouveaux types de bâtiments qui sont créés. Zola l'a formidablement décrit dans Le Ventre de Paris en parlant des halles de Baltard. Et les halles de Dole abritent 4 marchés hebdomadaires, ces halles qui ont été installées dès 1422, mais le bâtiment actuel date de 1883. Donc on est pile dans cette époque Baltard, des halles qui sont en briques, en fonte, en fer, en verre, sur le modèle des anciennes halles de Paris. Et il y a une vingtaine, trentaine de commerçants qui se retrouvent les mardis, jeudis et samedis matins, ainsi que le jeudi soir. Il y a un marché nocturne le jeudi soir dans ces halles de Dole. Et c'est un vrai plaisir, comme d'habitude, de se retrouver dans ces endroits très conviviales, très conviviaux plutôt, c'est beaucoup mieux, que sont les halles couvertes des villes de France.
C'est très convivial aussi, quoique parfois c'est un peu plus tendu, c'est le défi frigo.
Le truc, c'est convivial. Ah, vous.
Ça peut l'être jusqu'à une certaine limite.
Ça a quand même pris une tournure.
Ça dépend du produit.
Oui, c'est vrai que ça a dépassé.
Ça peut tendre.
Ça a dépassé parfois nos espérances. Vous allez le constater une nouvelle fois dans quelques instants.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Take it easy, Mika sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel.
11h, 12h30,
RTL vous régale.
Le défi frigo, si vous arrivez, si vous étiez en vacances jusqu'à ce milieu du mois d'août, eh bien, sachez que c'est simple. Jean-Sébastien et Louis s'affrontent quotidiennement.
Enfin, c'est simple.
Un ingrédient,
simple pour
deux
vous,
recettes
hein.
Originales en 1 minute 30. On accueille Julia, elle est à Verdun. Comme quoi.
Oui, bonjour. Dis,
ça va être
bonjour,
une bagarre dans un instant.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Julia?
Ça va très bien, il fait très beau, très contente.
Ah. Bon. Voilà. Alors, vous êtes où à Verdun?
Verdun,
c'est
en Meuse.
Oui, non, je dis où dans la ville. Non, c'est simplement parce que j'essaye de caser, que je connais très bien Verdun, parce que j'ai fait toute mon armée à Verdun.
Ah, d'accord.
En d'autres temps.
Eh bien, je suis juste à côté de la Porte de France.
D'accord.
Voilà.
Ok.
C'est bon, mon capitaine ?
Voilà. C'est bon. Et les dragées de Verdun sont les plus anciennes dragées du monde. C'est là-bas où on a inventé la dragée
c'est
à Verdun.
C'est la spécialité. Oui. Voilà.
Il fait exprès exactement pour gagner, Julia.
Oui.
Il est dans une opération de séduction.
Bien, c'est parce que Louise m'a tout appris depuis le début de l'été.
Terrifiant. Incroyable. Les dragées de Verdun. Non. Non, ça servira. Ne vous laissez pas enfumer par ce genre de manœuvre.
Non.
Julia,
je sais.
D'autant que vous arrivez aujourd'hui avec un produit qui est, alors là, parfaitement de saison pour le coup.
Oui.
C'est
la tomate.
Je suis halluciné qu'on n'ait pas encore proposé, que personne n'y ait pensé depuis le début de l'été.
C'est très ordinaire.
Mais non, c'est tellement malin de votre part. De la tomate, mais comment ? Deux recettes originales. En 1 minute 30, dans un instant. Vous
ça
écoutez.
Dépend, vous mettez où le niveau d'originalité ?
C'est vous qui allez me le dire,
d'accord.
Ça. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos vous sont présentées par Guillemette Franquet.
Le père Olivier Maire n'est pas seulement un apôtre de la charité, c'est une victime. Déclaration de Bruno Retailleau ce matin sur RTL. Le sénateur Les Républicains de la Vendée appelle à tirer les leçons des défaillances après le décès du prêtre, retrouvé mort de coups à la tête en début de semaine. Le meurtrier présumé est un Rwandais entré illégalement sur le territoire. Les obsèques auront lieu cet après-midi à 14h30 dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, y assistera. Plus de 200 manifestations anti-pass sont annoncées pour demain en France. La lutte contre le pass sanitaire ne faiblit pas pour ce cinquième week-end de mobilisation, alors que l'exécutif bataille pour convaincre les Français de se faire vacciner. En déplacement en Martinique, Olivier Véran s'est alarmé. Dans les services de réanimation, les patients sont très jeunes, a-t-il martelé, et surtout aucun n'est vacciné. Dans le CHU de Fort-de-France, les Antilles vacillent sous la force d'une quatrième vague sans précédent, une vague qui est la conséquence d'une vaccination trop faible sur le territoire, a alerté le ministre de la Santé. Aux États-Unis, il y aura bien un rappel de vaccin contre le Covid, une troisième dose pour les personnes immunodéprimées. En France, une campagne de rappel sera organisée, elle aussi, pour les plus vulnérables à la rentrée. 5 millions de personnes seront concernées. Dans le sud-est de la France, 25 000 foyers toujours privés d'électricité dans le Rhône, l'Ain et la Loire. Suite à des orages, hier soir, 600 agents sont sur place. Le trafic ferroviaire est reparti à la normale ce matin. En Afghanistan, la progression des talibans semble inexorable. Les rebelles revendiquent la victoire de Kandahar, la deuxième ville du pays. Selon les témoins sur place, les insurgés sont entrés sans combat. En une semaine, les talibans se sont emparés de près de la moitié des capitales provinciales. Londres, tout comme les États-Unis, envoie des militaires pour permettre l'évacuation de leurs ressortissants. Le soulagement en Grèce, alors que les feux sont maîtrisés, des poches de flammes persistent, mais après des pluies et une baisse de température, eh bien la situation se calme enfin. En Espagne, le feu en Catalogne est éteint, mais les risques qu'un incendie reparte sont très élevés en raison de la canicule. En Galice, dans le nord-ouest du pays, des flammes, toujours. 200 hectares de végétation ont déjà brûlé. En France, du soleil en général aujourd'hui, même si quelques nuages pourraient voiler le ciel. Dans une zone allant du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, il va faire chaud dans une large partie du pays. Dans le sud-est, 5 départements, toujours en vigilance orange canicule. Les températures dépassent les 30 degrés avec un pic à 41 degrés possible dans l'arrière-pays provençal. Pour trouver de la fraîcheur aujourd'hui en France, eh bien, il faudra aller dans le quart nord-ouest. On a 19 degrés sur la pointe bretonne et 23 degrés dans les Hauts-de-France. Les courses, elles ont lieu à Cabourg à 20h15. Dominique Cordier vous conseille le 5, le 8, le 9, le 14, l'As, le 2, le 10 et à la dernière minute, le 14, Concerto Cointry. Il est midi et 3 minutes et tout de suite RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit-Demange.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
C'est élémentaire, ça saute aux yeux, cette saison et circonstance, c'est de la tomate. Tout simplement de la tomate.
Mais c'est pas si simple.
Et c'est ce que j'allais vous dire, parce que est-ce que vous allez la cuisiner ? Si oui, comment ? Est-ce que vous allez l'utiliser cru ? Moi je n'en sais rien, on va y venir dans un instant. Qui commence ? Louise ou Jean-Seb ? Lequel est le plus mûr sur la tomate, si j'ose dire ?
Dites donc, c'est pas nous qui allons choisir maintenant.
Eh ben c'est vous alors, le toujours vert, Jean-Sébastien Petit-Demange. 1 minute 30, top chrono.
Alors, cette tomate, vous allez lui couper la tête comme pour faire une tomate farce.
Non, mais non, c'est...
Vous allez vider cette tomate, mais vous ne jetez pas la chair de la tomate parce que vous allez la réserver dans un saladier pour la laisser dégorger et faire de l'eau de tomate. Cette eau de tomate, vous allez pouvoir vous en servir pour une petite entrée apéritive, c'est-à-dire faire un panier tomaté. Vous allez enduire du pain rassis avec cette eau de tomate et ça va être absolument formidable. Ensuite, vous aurez ces tomates évidées. Vous allez prendre des œufs que vous allez casser à l'intérieur de votre tomate pour faire tout simplement un œuf cocotte. Ces œufs, vous allez mettre du poivre dedans. Vous allez pourquoi pas mettre des copeaux de parmesan et puis juste un petit trait de crème fleurette. C'est très tapas, c'est très été. Vous allez passer sous le grill du four pendant 5-6 minutes, le temps que l'œuf devienne que le blanc coagule, que le jaune ne cuise pas. Et vous avez cette tomate qui va être juste un peu ramollie, où vous allez avoir votre œuf à l'intérieur, vous avez les petites tranches de pain à côté, et vous avez une petite entrée de soir d'été. Plat très sympa.
Très sympa. Alors, j'ai quand même une remarque à faire là-dessus.
Oui.
Je me demande si ce logiciel espion Pegasus...
Oui.
qui squatte certains téléphones d'hommes d'État et de gens extrêmement importants, n'a pas été installé dans
c'est
le téléphone
dingue.
De Louise Petit-Renault par le sieur Petit-Demange.
Alors, n'essayez
parce
absolument
que, non, mais
pas de commencer à jouer à ça.
Non, parce que regardez ce qui se passe.
Mais non, mais
Louise
c'est incroyable.
un témoignage. Expliquez-nous
alors,
ce qui se passe.
Alors moi, j'aurais raconté l'histoire de façon un peu plus romantique. J'aurais dit, oui, il faut qu'on s'inscrive, Jean-Sébastien et moi, ensemble, en équipe, dans un concours de défis frigo. Parce que nous avons à chaque fois les mêmes idées. Et donc, ça veut dire qu'elles sont bonnes.
Non, mais ça veut dire que c'est exactement, rigoureusement la même recette.
Bah, c'est quasiment la même.
À quelques différences près ou pas, quand même?
Ah, bah, parce que je m'appelle Louise et qu'il s'appelle Jean-Sébastien.
Ah, c'est juste ça. Bon, bah,
non,
vous allez
non,
devoir
non,
choisir entre deux recettes identiques.
C'est drôle.
Non, c'est vrai.
Bon, mais... Oui,
mais... Non, mais alors je peux vous dire que ce qui arrive là est en 4 ans de défi frigo, c'est quand même la première fois qu'on a très exactement la même recette.
Non, c'est pas très exactement, mais ça fait même plusieurs fois qu'on a quasiment la même recette.
Non, mais on a les mêmes esprits, mais c'est des recettes de saison, de tendance. On peut pas non plus réinventer toute la cuisine en permanence. Mais vous savez, la cuisine n'est qu'une question d'état d'esprit, de tendance et de mode.
Ok, on va pas refaire les dossiers de l'écran non plus, parce que Julia attend sa deuxième
alors,
recette.
Alors Julia, moi je suis prête.
Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Je note.
Allez, c'est parti. Bon alors Julia, on va faire une tomate d'œuf en cocotte, donc version un peu plus féminine. Hein Julia, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Comme l'a très bien dit Jean-Sébastien, coupez le chapeau de votre tomate et vous allez l'évider. Avec cette chair de tomate, donc petite nuance, vous allez mélanger du thon et une cuillère de crème. De l'ail, de l'échalote, du persil, du paprika, ce que vous aimez, ce que vous avez chez vous. N'hésitez pas, vous faites une sorte de petit condiment. Vous reprenez donc votre tomate qui était vidée et vous allez tapisser le fond avec cette préparation à base de thon. Puis intervient l'œuf.
Et là, Julia, toute la différence.
Et là, toute la différence, c'est la façon dont vous allez le casser. Parce que nous avons des mains plus...
Cassez-le de la main droite, alors que chez Jean-Sam, il a fait de la main gauche.
Nous sommes beaucoup plus délicates, vu que nous sommes des femmes. Vous allez casser votre œuf sur votre préparation de thon, donc dans votre tomate. Saler, poivrer, remettre votre petit chapeau, un trait d'huile d'olive et direction le four pendant 15 minutes, Julia.
C'est fait, là, d'accord. C'est réglé. Bon, voilà, la messe est dite.
Ça n'a donc strictement rien à voir.
Non, c'est vrai, ça n'a rien à voir.
L'histoire de l'œuf cocotte, quand même.
Non, mais Julia l'a compris. Vous préférez la cocotte d'œuf en tomate ou la tomate à l'œuf en cocotte? C'est un petit peu,
la différence. Alors, j'ai fait mon choix.
Expliquez-nous pourquoi.
Je vais voter pour Louise, parce qu'elle est beaucoup plus gourmande.
Ah bon, vous trouvez?
Voilà. Merci,
Julia. Avec le thon, mettre à sa sauce un petit peu, j'aime bien. Mais Jean-Sept, c'était très bien aussi.
Oui, il ne faudrait pas non plus attirer les foudres de Petit Demange.
Merci, Julia.
Oui, enfin, on était quand même, il faut avouer, il faut être honnête, on était quand même sur deux recettes sensiblement pareilles.
Ah oui.
Bon, et pourtant, on avait une diversité de choix à proposer.
De folie sur la tomate, je suis d'accord avec vous. Julia, on va vous envoyer une montre RTL, un guide du routard des éditions Hachette. Et on va évidemment
super.
Vous permettre d'être peut-être peut-être tirer au sort d'ici quelques minutes à la fin de l'émission, puisque nous sommes vendredi, pour gagner ce week-end au domaine de la Closse, un très bel hôtel 5 étoiles, membre des Relais Châteaux situé en Lorraine, au milieu des 7 collines de Montenac, au cœur du pays des Trois Frontières. Si on vous rappelle d'ici à peine quelques minutes à la fin de l'émission, c'est que c'est vous la gagnante. On fait comme ça ?
On fait comme ça, très bien, et merci beaucoup.
Bonne chance, Julien.
Vous êtes des rayons de soleil.
Merci beaucoup, Julien, on vous embrasse fort et peut-être à tout de suite.
Merci, au revoir.
Et je rappelle que pour vous inscrire au défi frigo, vous envoyez régal, le mot régal par SMS au 64 900 dans un instant. On vous explique ce qu'il faut impérativement rapporter des Hauts-Jura.
Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens. C'est si facile quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. Aimer à mort sans respirer, même quand j'ai tort, je suis là, j'arrête pas. Aimer à mort sans se toucher, même si j'ai arrêter les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur, les doutes s'éveillent. Face aux égaux, tout semble atteint. Effacer les mots, casser les crains. Aimer à mort, sans respirer, même quand j'ai tort.
Aimer à mort, Louane sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zé.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Allez, les petits conseils d'amis d'RTL vous régale. Louise,
oui,
intronisée Miss Frometon depuis le début de cet été.
Et qui n'aime pas le fromage?
Et c'est pas dans cette émission qu'on va vous dire le contraire. Mais n'empêche, vous avez parlé du comté tout à l'heure, c'est une chose. Comté rime avec
Morbier.
Forcément.
C'est un fromage au lait cru de vache, fabriqué dans le massif du Jura en France, qui tire d'ailleurs son nom de ce petit village jurassien de Morbier. Il est protégé grâce à une AOP, appellation d'origine protégée, depuis 2002. Et vous savez, vous l'avez en tête, ce Morbier.
Moi, quand on me dit Morbier, je vois cette espèce de petite ligne cendrée au milieu, c'est ça, hein ?
Exactement. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Ça remonte à 2 siècles en arrière. C'était dans des fermes isolées de Franche-Comté. Les agriculteurs préparaient ce fromage en deux fois. C'est-à-dire qu'avec la traite du matin, il confectionnait un caillet qu'il moulait, qu'il recouvrait d'une fine couche de cendre de bois pour protéger cette première couche, pour éviter que les mouches viennent, etc.
Et ils en remettaient par-dessus.
Et le lendemain matin, ils ajoutaient le caillet issu de la deuxième traite. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette fameuse rayure.
Et c'est devenu une tradition.
Bah on a gardé cette tradition, sauf que c'est plus fait avec de la cendre de bois, mais avec du charbon végétal.
Ah d'accord. Très
comme
bien.
Ça, vous pourrez raconter ça à un dîner, un soir, si on vous sert du Morbier.
Je ne m'étais jamais posé la question. Jean-Seb, Oui. Dieu sait si, et on en a parlé avec notre invité de tout à l'heure, Dieu sait si on fait des vins formidables dans la région.
Il y a effectivement le vin jaune, il y a le château Chalon, mais il y a également un petit...
Les vins d'Arbois.
Les vins d'Arbois, les côtes du Jura. Vins d'Arbois qui accueillent des coteaux de Chardonnay, qui est le cépage le plus répandu. Là-bas, il y en a également un qui s'appelle le melon d'Arbois. Et puis, on travaille également les pinots noirs bourguignons. Arbois, qui est l'ensemble de l'appellation côte du Jura, qui sont surtout des cépages indigènes qui seront vinifiés, comme le savagnin, comme le poulsard. On les a évoqué tout à l'heure, une grande partie des Savagnins qui subit ce sortilège local qui donne le vin jaune, les Arboisiens qui produisent désormais aussi du Macvin. C'est le mar de vin. Ça, c'est un vin de paille dont les raisins ont été séchés 4 mois à l'abri. Le moût a été fermenté pendant 3 ans. Ça donne un élixir totalement suave, aux arômes complètement étonnants. Et puis vous avez également le Pupille, hein, qui est le frère jumeau de l'Arbois. Vous avez le minuscule vignoble de l'Étoile qui produit des blancs avec un goût de pierre à fusil ultra typique. Ça fait partie également des curiosités de tout ce vignoble qu'on retrouve dans un guide du Routard spécial sur l'œnologie dans le Jura. Et puis, il faut savoir aussi que dans le Jura, on fait des créments, les créments du Jura, qui sont également très étonnants à découvrir. C'est une typicité et quelque chose de totalement unique au monde.
Macvin,
le monde du vin.
Macvin, c'est génial.
Ah bah,
c'est génial. Moi, j'adore les vins de paille, pareil.
L'étoile, ouais. Le vignoble de l'étoile, c'est un truc totalement ahurissant.
Mm-hmm. Ces vins un peu beurrés, je trouve ça absolument fantastique. Alors évidemment, on a envie d'y retourner.
C'est une vraie balade, en fait. C'est une vraie. On vient de prendre l'apéritif avec un petit vin du Jura.
Si on était à la télé, je vous dirais bienvenue à nouveau sur notre plateau.
Est-ce que c'est. Oh, pas mal. Est-ce que ça vous dirait un petit Mont d'Or en plein mois d'août?
Du Vacherin, j'adore ça.
Voilà, donc, alors ça c'est important. Le Mont d'Or, appelé aussi Vacherin, c'est la même chose. C'est un fromage au lait de vache à pâte molle. Il est fabriqué dans le Haut-Doubs, alors à plus de 700 mètres d'altitude. Et c'est un fromage d'hiver. Donc c'est très important d'en parler maintenant.
Oui, c'est capital même.
C'est très de saison.
Cela dit, on n'est jamais à l'abri d'un Vacherin.
Hein. Et bah alors ça, moi, vous pouvez être sûr. Il a des arômes d'épicéa car il est affiné sur des planches en épicéa. Puis sa boîte est faite en épicéa. Et le Vacherin était le fromage des vachers. C'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle Vacherin. Il était produit par les paysans qui valorisaient les laits d'hiver en fabriquant ce fromage, alors que les laits de printemps et d'été étaient destinés au comté.
Voilà, d'où un fromage d'hiver. On va parler d'une des spécificités de cette région aussi.
C'est-à-dire le bois. Je vous ai parlé du bois au tout début de cette émission. Et ben, on est exactement dans cette grande tradition de la tournerie, comme on peut l'appeler, avec lesquelles on fait des jouets. Et puis il y a également la tradition des pipes.
On fait des pipes dans le coin. Il est maître pipier à Saint-Claude. Ça s'appelle les pipes Genot. Sébastien Beau est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Merci.
Alors vous travaillez là dans un atelier qui date de 1865.
C'est ça, oui.
C'est juste pour planter un peu le décor.
Selon les mêmes techniques.
Voilà, et qu'on comprenne bien comment vous suivez la tradition de longue date. Parce que vous avez racheté ça à un patron qui vous avait lui-même formé. Vous avez repris sa succession. Lui-même l'avait repris de quelqu'un d'autre. Enfin bon, on va pas refaire le film. Mais c'est très intéressant cet artisanat, qu'on peut visiter d'ailleurs toute l'année.
Tout à fait, oui. Ça me permet de faire découvrir aux gens la partie technique et puis toute la fabrication de la pipe et puis aussi de leur parler de notre métier et puis de notre passion. Quoi.
Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Comment est-ce qu'on les fabrique justement?
On les fabrique avec du bois de bruyère parce que ça ne brûle pas facilement puis ça ne donne pas de goût.
Mm-hmm.
C'est une variété de bruyère qui est méditerranéenne. Donc nous, on fait venir le bois et puis ensuite, on fait toute la partie tournage, polissage, etc.
Vous la faites à la main?
Alors c'est avec des tours à bois quand même, c'est des tours à bois traditionnels. Hein. Ceux qui tournaient avec l'eau avant 1900. Mmh. Maintenant, il y a juste un petit moteur électrique au bout de la courroie pour que ce soit quand même plus pratique. Mais c'est les mêmes principes. C'est un peu comme des tours de mécanicien, si vous voulez, à l'ancienne. Et puis après, on polie effectivement tout à la main.
Est-ce que la pipe redevient à la mode?
Un petit peu, ouais, notamment grâce à la mode des hipsters.
Voilà.
Et puis grâce au Seigneur des Anneaux aussi.
Eh oui.
Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Aussi à redorer un peu l'image de la pipe.
C'est très, très étonnant, hein, parce qu'il faut quand même imaginer, il y a quelques années, c'était un marché qui était exsangue. On ne trouvait plus de magasins. Même à Paris, il restait quelques bureaux de tabac dans lesquels on pouvait acheter des pipes. Moi, franchement, connaissant un peu le coin, j'aurais pas donné grand chose pour racheter une entreprise pour faire ça. Et aujourd'hui,
qu'est-ce qui explique que c'est revenu à la mode, justement?
C'est le Seigneur des Anneaux. Il suffit d'un rien. Il suffit de quelque chose qui soit ultra à la mode pour relancer une industrie.
Mais je peux pas imaginer que ce soit uniquement le Seigneur des Anneaux qui a relancé la.
Mais si, c'est mondial. Attendez,
Sébastien.
Il y a aussi le fait que les gens retournent un peu plus vers la nature, etc., et vers peut-être des loisirs un peu plus calmes. Ils ont peut-être moins envie de courir dans tous les sens, comme on le fait au travail.
Et les souvenirs aussi, l'odeur.
Vous avez raison d'en parler, Louise, parce que moi, je me souviens des grands-pères qui fumaient la pipe avec le clan.
L'odeur, le bruit quand il tasse.
Non, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai. Ça fait du bien, les souvenirs.
J'étais élevé dans un bureau de tabac aussi. Hein.
Ben voilà, donc moi, c'est pour moi l'odeur de la pipe, c'est l'odeur des professeurs des géographies. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est intéressant. C'est les souvenirs.
Est-ce que vous fumez vous-même la pipe?
Moi, je fume le dimanche quand j'ai le temps. Oui.
Voilà.
Ah. Vraiment, vous les testez.
Tranquille, c'est vraiment plus l'attitude quand les gens qui utilisent les pipes maintenant.
Calmement
et pas avoir la pipe à la bouche tout le temps.
Il y a des modes de forme, de grosseur de pipe en ce moment. On est sur des pipes avec des culots plutôt profonds, avec des manches longs.
Ouais, plutôt des pipes longues, ouais, parce que c'est plus élégant.
Ouais.
Ça se remarque plus, c'est plus stylé, on va dire. Et puis, sinon, bon, nous, on fabrique surtout des pipes classiques, hein, oui. Parce que c'est adapté à toutes les circonstances, à toutes les personnes. Et après, on fait un peu des modèles plus fantaisie, mais c'est moins répandu quand même.
Voilà, allez visiter l'atelier de Sébastien Beau, maître pipier à Saint-Claude, les pipes Genot, parce que on le visite, on suit vraiment toutes les étapes de la fabrication de ces objets pour clôturer. Faut combien de temps pour faire une bonne pipe, Sébastien ?
En moyenne, on compte une demi-heure parce qu'on fabrique en série quand même. Hein. Donc le plus long, c'est de tout régler les tours et puis du coup, ça va quand même relativement vite, mais.
Merci pour ces précisions en tout cas.
Merci beaucoup.
On vous souhaite un très bel été et je ne doute pas qu'il le sera.
Merci à vous.
À bientôt.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale.
FR. 11h-12h30. RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Vous attendiez le petit pas de côté de Jean-Seb pour terminer l'émission comme tous les jours. On est dans le Haut-Jura. On ne sera pas surpris non plus de faire un pas de côté qui nous emmène quand même en forêt. C'est une région très verte.
Ben, je vous le disais au début, la forêt de Chaux, c'est une des plus grandes forêts de France avec ses 22 000 hectares. Un biotope totalement exceptionnel. Inutile de préciser que c'est le paradis pour les amateurs de champignons, pour les randonneurs, pour les amateurs de nature. Lorsqu'on sillonne le Jura, on tombe aussi à un moment sur une des villes les plus exceptionnelles qui soit. On tombe dans un quartier à Arbois qui est la ville où est né Louis Pasteur. Il y est né le 27 décembre 1822. Il n'est resté que 4 ans à Dole avant de partir pour Arbois. Il deviendra le grand ami des vignerons d'Arbois, puisque c'est lui qui a été un des plus grands chercheurs et un des plus grands découvreurs sur les maladies du vin. On le surnommait l'ami des levures, Pasteur, le père de la pasteurisation. Il a travaillé sur le choléra de la poule, il a travaillé sur les maladies du ver à soie. Et puis, Pasteur, tiens, dites donc, c'est étonnant, est le père de la vaccination. Mais oui, dites donc, c'est vrai. Pasteur qui n'a jamais vacciné personne, parce qu'il n'était pas médecin. Et à l'époque, on ne pouvait pas vacciné lorsqu'on n'était pas médecin. Il n'était que chimiste, Pasteur. Ce génie absolu n'a jamais vacciné personne. Aujourd'hui, tout le monde pourrait vacciner tout le monde si tout cela allait plus vite. Mais pour cela, pourquoi pas partir découvrir une reculée du Jura, qui est un des plus beaux paysages qui soit au monde. Une reculée, c'est une longue vallée qui pénètre à l'intérieur d'un plateau calcaire. C'est une sorte de fjord intérieur qu'on peut découvrir uniquement dans le Jura, parce que j'ai commencé en vous parlant du Jurassique. Le Jura a créé cette période géologique qu'est le Jurassique. Il faut souhaiter que nous ne devenions pas un Jurassic Park quelconque parce que nous ne nous sommes pas fait vacciner suffisamment vite.
Tout de suite, retour de RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale.
On a passé une très bonne fin de matinée dans le Haut-Jura, dans RTL vous régale. Avant de vous quitter, de vous souhaiter un très bon week-end, je vous rappelle que nous jouions cette semaine dans le défi frigo pour partir en week-end au domaine de la Close. Il y a 5 noms dans le chapeau du tirage au sort. Vous vous souveniez du marquis? Voici Maître Sade.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Maître.
Bonjour Maître.
C'est vous qui allez procéder une nouvelle fois de manière très officielle à ce tirage au sort.
Comme chaque semaine depuis le début de l'été, donc je vais le faire à l'instant.
5 noms, et le ou la gagnante s'appelle?
La gagnante s'appelle Erika, et elle habite à Dunkerque.
Et elle a joué avec nous dans le défi frigo, cette semaine elle est là.
Bravo
Erika.
Bravo Erika.
C'est gagné.
C'est pour vous.
Ah, l'histoire est belle, parce que vous partez en week-end au domaine de la Close, hôtel 5 étoiles, membre des Relais et Châteaux, c'est situé en Lorraine. Vous allez loger au milieu des 7 collines de Montenac, au cœur du pays des Trois Frontières. Je ne sais pas si vous connaissez la région, Erika.
Pas du tout.
Vous allez découvrir le chef Benoît Potvin, il va vous accueillir au restaurant gastronomique de l'hôtel. Il travaille des produits d'exception qu'il revisite avec toute la passion qui est la sienne. Vous emmenez qui, si ce n'est pas indiscret?
Moi.
Si mon mari n'est pas dispo, oui, d'accord.
Ah, super, merci.
Il est avec vous, votre mari, ou pas?
Oui, oui, oui.
Eh bien, alors, annoncez-lui la bonne nouvelle. Il s'appelle comment?
Olivier.
Olivier, Erika, vous êtes les invités d'RTL, vous régale.
Ah, merci beaucoup.
Bravo.
On vous souhaite un très bon week-end. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire ce que vous en avez pensé, d'accord?
Et faites-nous des photos, Erika.
Bien sûr.
Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup. Je suis très, très contente. Merci.
Et avec plaisir, je précise que le domaine de la Close s'écrit K-L-A-U et. 2S si vous voulez acheter un coup d'œil sur internet. Bon week-end à tous, à lundi 11h avec Louise et Jean-Sébastien. On partira ensemble en baie de Somme. Ouais. Vous écoutez RTL, il est 12h.